Laudetur Jesus Christus.
Coûte que coûte, préserver le multilatéralisme. Dans un message rédigé depuis l'hôpital, François revient sur ce monde en polycrise. Les détails juste après les titres. Le Pentagone annonce arrêter ses cyberactivités contre la Russie. Une décision de plus de la nouvelle administration américaine en faveur de Moscou. Il faut passer moins de temps à s'inquiéter de Poutine, estime le président américain. Dans ce journal également, un comité mis en place pour la transition en Syrie. Et puis la guerre de la communication en RDC. Après une remise de personnes présentées comme des combattants anti-Kigali à l'armée rwandaise, analyse à suivre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Dans un monde en polycrise, le pape veut croire au multilatéralisme. Depuis l'hôpital, François a rédigé un message aux participants de l'assemblée plénière de l'Académie pontificale pour la vie. Une assemblée plénière consacrée à la gestion des crises qui frappent le monde. Le pape invite les académiciens à s'interroger sur la compréhension de notre monde et sur notre résistance profonde au changement, à la fois en tant qu'individu et en tant que société. Les explications d'Alexandra Sirgan.
Le Saint-Père invite à examiner et questionner notre représentation du monde et du cosmos, sans quoi nous continuerons à faire ce que nous avons fait avec d'autres crises, à l'image de la gestion de la pandémie du Covid-19, cet épisode planétaire gaspillé selon l'évêque de Rome, car il aurait pu représenter une opportunité pour travailler davantage à la transformation des consciences et des pratiques sociales. Pour ne pas rester ancré dans nos certitudes, le pape François a invité les académiciens à écouter attentivement les apports de la connaissance scientifique et à développer une approche transdisciplinaire de la nature. Mais la sauvegarde de la création et l'espérance sont aujourd'hui mises à mal par la perte progressive de pertinence des organismes internationaux, minés par des attitudes à courte vue, soucieuses de protéger des intérêts particuliers et nationaux. François exhorte à continuer à lutter avec détermination pour que ces organisations soient plus efficaces et dotées d'autorité pour assurer le bien commun mondial, une lutte essentielle pour favoriser, je cite, un multilatéralisme qui ne dépend pas de l'évolution des circonstances politiques ou de l'évolution de l'économie.
Alexandra Sirgan, et selon les dernières nouvelles de la santé du pape François données à la mi-journée par le Saint-Siège, son état est stable mais le pronostic demeure réservé. À noter toutefois que hier, François n'a pas eu besoin de ventilation mécanique. Après l'humiliation vendredi du président ukrainien par son homologue américain, la guerre en Ukraine est présente dans toutes les chancelleries européennes ce lundi. L'Allemagne invite l'Europe à se préparer au pire et invite à créer une alternative à l'OTAN. La guerre en Ukraine et ses conséquences qui est aussi actuellement débattue à l'Assemblée nationale en France. Le Premier ministre français François Bayrou salue le comportement de Volodymyr Zelensky qui, dit-il, n'a pas plié. Aux États-Unis, la presse rapporte qu'une pause a été décidée par le Pentagone dans toutes les cyber opération américaine menée contre la Russie. Le secrétaire à la Défense n'explique pas cette décision prise avant la visite vendredi de Volodymyr Zelensky à Washington. Une décision qui semble en dire long sur le réalignement diplomatique historique qui s'opère outre-Atlantique. À New York, Loïc Loury.
Nous devrions passer moins de temps à nous inquiéter de Poutine, dit Donald Trump, et plus à nous inquiéter des gangs de migrants violeurs ou des gros bonnets de la drogue. Ces mots du président américain semblent justifier la décision récente du Pentagone. Selon la presse, les États-Unis ont arrêté toutes leurs opérations dans le domaine cyber contre la Russie, sans que l'on connaisse toutefois la durée et l'ampleur de cette pause. Dans le contexte actuel, et même si ce revirement est antérieur au violent face-à-face de vendredi dans le bureau ovale, ce gel de la cyberguerre sonne comme un blanc-seing offert à Vladimir Poutine et comme un nouveau signe du réalignement de Washington avec Moscou aux dépens de ses alliés traditionnels. La décision semble risquée eu égard aux efforts intenses de la Russie en matière de guerre hybride. Moscou, selon des responsables de l'administration Trump, tentait ainsi toujours de pénétrer les réseaux américains dans les premières semaines de sa présidence. New York, le Chloé Clouret, Radio Vatican.
Alors que les négociations sur la poursuite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semblent dans l'impasse, les médias israéliens ont dévoilé cet après-midi le plan de pression maximale de Benjamin Netanyahou sur le Hamas. Un projet baptisé Plan Enfer qui prévoit, après le blocage total de l'aide humanitaire depuis hier, le déplacement forcé des Palestiniens du nord de la bande de Gaza vers le sud, mais également l'interruption de l'approvisionnement en électricité. Une stratégie pour contraindre le Hamas à accepter les conditions d'Israël. Le Premier ministre israélien qui n'exclut pas le retour complet à la guerre selon les médias, avec cette fois de nouvelles bombes lourdes fournies par les États-Unis. Et toujours au chapitre de la guerre au Proche-Orient, demain les pays de la Ligue arabe se réunissent au Caire pour essayer d'avancer sur le futur des territoires palestiniens. Et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient est lui attendu d'ici une semaine sur place. On reste au Proche-Orient avec une étape cruciale vers un avenir politique plus stable en Syrie. Le pouvoir a annoncé la formation d'un comité chargé d'organiser la transition après la chute de Bachar al-Assad. Ce comité, issu de la récente conférence du dialogue national, se voit confier la lourde tâche de rédiger une nouvelle constitution syrienne. À Damas, Mohamed Erami.
La décision de former ce comité vient de la conférence du dialogue national tenue il y a quelques jours. Son but est d'organiser la transition politique après la chute de Bachar al-Assad. Ce comité est composé de 7 membres. Il doit rédiger une constitution de 48 articles selon une source gouvernementale. Parmi les articles les plus importants, certains concernent le président et le chef de l'armée. La future constitution exige qu'il soit musulman. Le président, qui sera Ahmed al-Shara, devra nommer une assemblée nationale de 100 membres. Il aura 60 jours pour le faire après l'annonce de la déclaration constitutionnelle. La constitution inclura aussi des articles pour empêcher les crimes du régime précédent, garantir la justice transitionnelle et enfin protéger le droit des minorités. À Damas, Mohamed Erami pour Radio Vatican.
Comprendre pour que le pire ne se reproduise plus. À Londres, les auditions ont commencé ce lundi dans le cadre d'une enquête publique sur le naufrage le plus meurtrier dans la Manche, 27 morts en novembre 2021. Comment se fait-il que les passagers soient restés dans l'eau pendant plus de 12 heures sans être secourus après leur appel de détresse? A ainsi interrogé l'avocat à l'ouverture de ces auditions. Et c'est dans ce contexte que le thème de la prochaine journée mondiale du migrant a été dévoilé au Vatican. Migrants missionnaires d'espérance, un thème choisi à la lumière du jubilé. La journée aura lieu comme tous les ans au mois d'octobre. Un montage grossier, c'est ainsi que qualifie l'armée de RDC la remise de soi-disant combattants hostiles à Kigali à l'armée rwandaise. Samedi, devant des caméras de télévision, le groupe M23 a remis au Rwanda 20 personnes présentées comme des soldats du FLDR, les Forces démocratiques du Rwanda, un groupe opposé à Kigali. Un montage dans le but de discréditer l'armée congolaise, selon l'état-major de RDC. La guerre dans le Nord Kivu se transforme de plus en plus en guerre de communication. Le M23 et le Rwanda tentent de séduire les citoyens congolais. Mais quels arguments utilisent-ils? La réponse ce soir du père Toussaint Kafariré, un jésuite congolais, directeur du centre Aroupé pour la recherche et la formation à Lubumbashi.
On a écouté les discours que ces occupants développent chaque fois qu'ils arrivent et investissent une ville. Les discours, c'est essentiellement de fustiger, évidemment, les méfaits, les abus de pouvoir au niveau du gouvernement de Kinshasa. Ça, tout le monde le sait, tous les Congolais le savaient. Oui, le M23 est en train d'accuser le gouvernement de Félix Tshisekedi pour tous les méfaits que nous connaissons, comme nous disions, la corruption et tout le reste. Mais il ne faut pas oublier que celui qui porte le flambeau de l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, et qui marche avec les M23, M. Corneille Nangaa, a été le président de la Commission nationale électorale indépendante du Congo. Et que celui qui, il l'a dit lui-même, qui a concocté un plan pour donner le pouvoir à M. Félix Tshisekedi, alors qu'il savait tout à fait bien que la souveraineté populaire dans ces élections élisait M. Martin Fayoulou comme président. Et donc d'avoir saboté à un moment de l'histoire la souveraineté, la volonté de toute une nation, de tout un peuple pour des calculs politiques, moi je pense que ne peut pas donner aucune autorité morale à celui qui va parler aujourd'hui pour critiquer la corruption de ce gouvernement qu'il a aidé à mettre en place.
Et avant de se quitter, vous le savez, comme depuis maintenant une semaine, ce soir, une récitation du chapelet aura lieu à Hon à 21h, place Saint-Pierre. Dirigée ce soir par le cardinal Prévost, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.